On fait l'appel pour commencer?
Oui.
Ça commence par Samy.
Présent.
Ensuite, on a Kenefe.
Présent.
Solal.
Présent.
Bienvenue.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde avec en tête le goût du monde de demain. Nous sommes avec ceux qui le feront, ce monde, les enfants bien sûr, dans une école à l'est de Paris. On pense ici qu'en titillant très jeune leur intérêt, leur curiosité pour ce qu'ils mangent, le monde n'en sera que meilleur. C'est notre conviction et c'est celle aussi de l'école comestible, une association que vous avez fondée. Camille, bonjour.
Bonjour.
Camille Labro, journaliste indépendante, auteur engagée de Fourche et Fourchette, hein, l'affiche est juste à côté de moi,
c'est
donc
ça.
C'est facile. Entre autres, hein, Fourche et Fourchette, il y a aussi le livre blanc de la gastronomie. La cuisine des marins, de nombreux livres autour du goût, de la cuisine, de ceux qui la font, de ceux qui la pensent aussi.
Hein. C'est ça.
Et avec nous également, Flore Grandboulan, vous êtes cuisinière, chef à domicile, vous avez beaucoup voyagé et aujourd'hui vous avez été l'occasion d'un atelier, une formatrice de goût et en l'occurrence de vinaigrette, mais ça on va pouvoir l'entendre tout au long de l'émission parce que vous allez entendre les enfants, leur réaction par rapport à ce qu'ils goûtent, par rapport à tout ça. Alors première question évidemment, vous avez animé un atelier autour de la vinaigrette. Quel rôle jouent ces ateliers pour l'école comestible? Est-ce que ces ateliers, c'est juste la partie émergée d'un grand, grand projet? Camille Labro.
Oui, je ne vous le fais pas dire. C'est exactement ça. En fait, l'école comestible, c'est une association qui a pour vocation de réapprendre aux enfants ce qu'est l'alimentation, une bonne alimentation de la terre à l'assiette. Du coup, on organise notamment, entre autres, des ateliers autour de la cuisine, des goûts de base et puis des choses plus élaborées au fur et à mesure, au fil du temps. Mais on a aussi des ateliers potagers, des sorties, des visites, des rencontres avec des maraîchers, des rencontres avec des artisans. Ça fait partie en fait de tout un programme et une progression pédagogique qui démarre avec les tout-petits et qui peut aller jusqu'au collège.
D'accord, parce qu'en fait le goût il se crée quand et jusqu'à quand?
Le goût il se crée au sein de sa maman, hein, mais là on voit bien avec les petits avec lesquels on a fait un atelier aujourd'hui qui sont en moyenne et grande section de maternelle.
Donc ils avaient entre 3 et 5 ans,
c'est ça. Et on voit bien que le goût est là. Ce qui manque, ce sont les mots pour définir et préciser ce qu'on est en train de goûter. Mais ils sentent tout, évidemment. Il y a des grimaces, il y a des gestes, il y a des cris, il y a des bruits de plaisir aussi. Donc en fait, nous, ce qu'on essaye de leur apporter aussi, c'est d'arriver à mettre des mots sur ce qu'ils sentent et puis à les mettre en action. Et donc, on leur donne aussi des moyens pour faire des choses, fabriquer des choses.
Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire?
On va goûter les choses.
Non, cette fois-ci, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va sortir des légumes.
On va sortir des légumes. Ah, non, ça, on a déjà fait. Aujourd'hui, on va faire autre chose. On va prendre un bol. Et dedans, avec ça. Ça s'appelle comment, ça?
Ouais.
Un fouet.
Faire ça mélanger.
C'est pour mélanger, absolument. Et dans le bol, avec le fouet, on va mélanger des ingrédients pour faire une...
Vinaigrette.
Vinaigrette.
Non, une patate.
Non, une vinaigrette. C'est quoi la patate?
Donc le fait que ce soit très concret, c'est très important. Est-ce que c'est de cette manière que vous ouvrez justement les enfants à cette curiosité-là et au goût, aux différents goûts et aux autres aussi, aux réactions des autres?
C'est fondamental parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, évidemment. Des petits films, différents ateliers, différentes masterclass, on va dire, même à des petits niveaux. Mais ce que les enfants font finalement assez peu, c'est de faire eux-mêmes. Et en fait, on se rend vite compte, quand on fait avec les enfants, qu'ils vont se mettre à manger tout. Et n'importe quoi, enfin tout, c'est-à-dire pas n'importe quoi, mais les choses qui, a priori, ils n'aiment pas. C'est-à-dire les légumes, tout ce qui est vert, tout ce qui est cru, tout ce qui est dur, tout ce qui est chou, radis, qui pique, qui croque et qui a des couleurs vives. Mais à partir du moment où on leur fait faire, c'est-à-dire qu'on leur fait faire une salade, ou on leur fait faire une vinaigrette pour aller avec cette salade, on leur fait touiller eux-mêmes la vinaigrette et touiller avec les feuilles de salade, il y en a très très peu, mais vraiment une toute petite portion qui ne goûte pas et qui ne mange pas. Et c'est étonnant ce qui se passe à chaque fois. On est nous-mêmes à chaque fois étonnés par le résultat de cette méthode de juste les faire faire Et ça va évidemment dans l'idéal de la terre à l'assiette, c'est-à-dire qu'on leur fait planter, cultiver, récolter, cuisiner, transformer. Et comme vous disiez, ils se font goûter les uns les autres. Donc il y a aussi une idée de partage, de sens collectif. On fait pas ça juste pour soi, on fait ça pour faire à manger aux autres aussi. Comme des cuisiniers professionnels comme Flore, elle fait pas à manger pour elle, elle fait à manger pour les autres. Et c'est ça aussi qu'on essaye d'enseigner aux enfants.
Cet atelier aujourd'hui, il y avait plusieurs ingrédients qui étaient intéressants, parce que plusieurs découvertes, je pense à l'huile. L'huile, c'est un très bon support pour découvrir, selon vous ?
Oui, en fait, c'est vrai que souvent, les enfants connaissent l'huile d'olive, et encore, ils ne savent pas forcément comment ça s'appelle, mais bon, l'huile de base qu'on met dans une vinaigrette, ou l'huile de tournesol, mais là, du coup, on avait une huile de colza, qui est quand même assez forte en goût, que les enfants ne connaissent pas forcément. L'huile de noisette, et ça, c'est intéressant, il y en a pas mal qui ont reconnu, qui n'ont pas forcément dit noisette, mais qui ont dit amande ou noix, donc je trouve que ouais, c'est assez intéressant, justement, de prendre des ingrédients qu'ils connaissent, pour pas non plus faire qu'avec des ingrédients qu'ils n'auront pas chez eux ou qui sont un peu farfelus, genre on a fait goûter du sirop de date.
Est-ce que vous connaissez ça ? Ça ressemble à quoi, ça ? Alors, ça ressemble à du miel, mais c'est pas du miel, c'est du sirop de date.
Ah ouais. On dirait, c'est du médicament.
Alors, ça va être sucré et amer.
Vous vous rappelez, on avait goûté plein de choses, et à chaque fois, il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas.
Dès qu'il veut goûter le sirop de date. Si vous ne voulez pas goûter, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est bon ? Ça te plaît ? Tiens, ça goûte quoi ? C'est quoi comme goût ? Ça ressemble
ouais, ça
à du miel.
À du miel.
Ah ouais. Vous trouvez ça sucré, amer, salé ? Est-ce que c'est salé ?
Sucré !
C'est quoi le goût ?
C'est du sucré.
C'est sucré ?
Et j'aime trop le sucré.
Oui, bah évidemment, vous aimez trop le sucré.
Vous en avez encore 6 Twizzlers. J'en ai encore 6 Twizzlers.
Gros succès, le sirop de
Oui, d'ailleurs, gros succès.
Vous vous attendiez justement parce que vous avez présenté le sirop oui. comme étant un peu amer.
Oui, je trouve qu'il y a une petite amertume à la
mais
fin.
Mais ils étaient là à se regarder les uns les autres, ils goûtaient comme si c'était un peu une sucette, oui. quelque chose d'absolument délicieux.
Parce que c'est très sucré, je pense. Mais c'est vrai que moi, je trouvais que c'est intéressant parce que il y a pas beaucoup d'ingrédients qui ont en même temps le sucré et l'amer, et du coup, je pensais qu'ils allaient peut-être pas forcément aimer, mais moi, j'aime pas trop, par exemple. Je trouve ça, ça a une petite amertume qui est pas très agréable, mais oui, ils ont beaucoup aimé. Il y en a qui ont dit que ça leur faisait penser au miel, et c'est vrai que ça fait penser surtout à la texture. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir aussi des ingrédients. Qui connaissent pas du tout et qui vont appréhender forcément un peu différemment.
Mais en tant que cuisinière, vous, qu'est-ce que ça vous évoque justement quand vous les voyez s'ouvrir ou non ? Parce qu'il y en a qui n'étaient pas forcément dans l'envie d'eux, mais quand vous les voyez évoluer comme ça, qu'est-ce que ça suscite en vous ?
Bah moi, je trouve ça génial et je trouve que j'aurais vraiment aimé qu'on ait ça nous quand on était enfant. Ça m'a vraiment un truc qui manquait à l'école. Donc je pense que en effet, il y a l'idée de partage qui est hyper importante. Et puis, en effet, l'idée de savoir pas seulement ce que c'est la cuisine et genre élargir vraiment le truc, parce que c'est vrai que des ateliers cuisine, j'en ai fait pas mal avec des enfants où on fabrique quelque chose et puis ils repartent à la maison avec leur gâteau ou quelque chose comme ça. C'est des trucs un peu plus...
Plus classiques.
Oui, dans, voilà, c'est ça. Alors que là, le fait qu'avec tout le cycle des ateliers, qu'ils voient un peu d'où viennent les produits, par qui ils sont produits... aussi les déchets, parce qu'il y a des choses sur le compost, donc un peu toute la chaîne, ça change vraiment tout, ça donne une approche beaucoup plus globale, et je pense que ça fait aussi que plus tard, ça fera peut-être des consommateurs plus éclairés.
Ça, on va en parler, évidemment. Toute cette chaîne, le fait que ce soit global, c'est très important pour vous, c'est à la base de votre démarche, qui d'ailleurs trouve ses origines peut-être, ou est inspirée aussi d'une autre démarche qui, elle, vient d'outre-Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous en parler,
Californie, Camille ? Oui. Évidemment, c'est le fondement. C'est-à-dire que à l'origine, l'inspiration première, c'est l'Edible School Yard d'Alice Waters en Californie. Donc Alice Waters est une chef américaine très connue là-bas, toujours assez peu, c'est dommage, assez peu connue en France.
Qui a un restaurant chez Panisse.
Qui a un restaurant qui s'appelle Chez Panisse à Berkeley en Californie et qui, il y a 25 ans, donc ça date, a monté cette Edible School Yard qui est un jardin potager très grand.
Ce qui veut dire, c'est juste parce que le nom en lui-même, ça veut dire...
C'est la cour d'école comestible.
cours d'école comestible.
Voilà, donc le nom de notre association est directement inspiré de ça et je le revendique complètement.
D'ailleurs, c'est votre marraine, je crois.
C'est ma marraine. Et c'est aussi la marraine de l'association.
C'est l'association
entre autres. Avec aussi, aux côtés d'Olivier Rollinger, Michel Guérard et Françoise Nissen, qui sont autant de gens qui défendent le bien manger et justement toute cette chaîne alimentaire très importante. Mais donc Alice Waters, il y a 25 ans, a monté cette cour d'école comestible dans une école, c'est une middle school, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un collège. Et l'idée, c'est de créer ce grand jardin potager, magnifique, soit dit en passant.
Qui est dans l'école, donc.
Qui est juste à côté de l'école, vraiment mitoyen à l'école. C'est un ancien parking, en fait. Et à côté, il y a une cuisine, un laboratoire culinaire. Et donc, chaque classe, en fait, du collège va aller passer un temps d'atelier, soit au jardin, soit en cuisine, avec leur professeur, pour finalement intégrer potager ou cuisine dans l'enseignement qu'ils sont en train de suivre. Par exemple, ils font des maths en faisant une recette et la règle de trois, ou avec leur professeur d'histoire pour apprendre, je sais pas, l'histoire du blé et faire cultiver du blé dans le jardin ou faire du pain. Ils vont évidemment faire des cours de biologie, faire des cours de sciences.
C'est un support à tout, en fait, le jardin.
C'est un support transversal à tout, le jardin et la cuisine. C'est-à-dire qu'en fait, l'alimentation, pour moi en tout cas, et pour tous les membres de notre association, est au cœur de tout. Quand on traite l'alimentation, on peut traiter aussi bien de politique, de santé évidemment, d'environnement, évidemment, d'histoire, géographie, de sciences, d'économie, et puis d'avenir de la planète.
Et planter dans ce jardin potager justement des éléments qui vont permettre de donner accès aux enfants à cette biodiversité que nous avons. On va partir au Burkina, peut-être. Vous voulez venir avec moi?
Allez.
Au Burkina Faso, où Jean-Marie Koalga est le président de Slow Food, l'association Slow Food, donc qui prône une alimentation justement raisonnée, pensée, et qui a donc, à l'initiative du réseau Slow Food, planté 10 000 jardins potagers en Afrique, et notamment dans les écoles.
Ces jardins permettent au niveau des écoles de produire des légumes frais, de pouvoir avoir de l'alimentation, de mettre l'accent sur la nutrition aussi au niveau de ces écoles. Donc ces jardins produisent surtout des variétés, des espèces de légumes, de plantes au niveau local, qui peut servir pour l'alimentation au niveau des écoles, dans les cantines scolaires aussi. C'est de aussi préserver des variétés en voie de disparition. Dans ces merveilles, c'est vraiment de permettre à ces jeunes à pouvoir vraiment découvrir cet intérêt, de pouvoir le préserver et permettre que ces générations futures aussi puissent en profiter dans l'avenir. C'est des jardins qui ont pour rôle aussi de travailler à la préservation de la biodiversité. Donc nous prenons la reproduction aussi de certaines plantes locales qui sont d'utilité capitale pour la communauté, mais parfois qui sont en disparition. On peut citer par exemple des espèces de plants comme le néré, comme le tamarinier, le capoquier, qui sont reconnus vraiment comme des espèces très utiles pour la biodiversité et même pour l'alimentation, mais qui sont menacées de disparition. Donc à travers ces jardins-là, nous accompagnons, nous encourageons en tout cas les écoles à pouvoir les reproduire, pour même permettre aux enfants de savoir que ce sont des espèces qui font partie de leur milieu et qui ont aussi leur utilité. Il faut travailler à préserver.
Réaction.
Slow Food, ce sont des alliés pour nous. Hein. On est très proches d'eux et c'est aussi une immense inspiration. Ce qu'ils ont fait en Afrique, évidemment, les 10 000 jardins, c'est une de mes premières réflexions en me disant à quel point finalement réapprendre aux gens et aux enfants en particulier à finalement faire produire leur propre nourriture, c'est-à-dire à aller vers une autonomie alimentaire, elle est fondamentale, encore plus dans les pays pauvres et auprès des populations défavorisées. Slow Food a également un projet, un programme en Italie aussi, qui s'appelle Orti di Condotta, et où ils créent des jardins dans toutes les écoles. Et ils accompagnent ça. Nous, on a beaucoup discuté parce que ce qu'on ajoute aussi, c'est l'aspect transformation, cuisine et appréhension, des gestes, des goûts, etc. Ils réfléchissent maintenant à faire un petit peu la même chose. Enfin, on a un échange très, très, très productif et très bénéfique avec Slow Food. C'est une grande inspiration. Et d'ailleurs, Alice Waters est vice-présidente de Slow Food International. Donc voilà, c'est par hasard.
C'est par hasard. De notre assiette et de notre décision quant à ce qu'on mange, est-ce qu'on peut changer le monde avec ça?
Moi, j'en suis absolument persuadée, Clémence. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Flore.
Moi aussi, bien sûr, j'en suis persuadée, en effet. Par rapport au jardin, on a fait un atelier cet été avec Yes We Camp, avec des jeunes qui sont tous arrivés en disant qu'ils détestaient les légumes. On était dans un jardin potager communautaire et ils ont du coup vu comment avaient poussé les légumes et ils ont tous mangé. C'était vraiment hallucinant. C'est ce que tu disais tout à l'heure, à quel point vraiment il n'y a pas d'exception. Ils ont tous fini leur assiette, c'était des légumes avec de la vinaigrette et des herbes, quoi. Donc c'était assez, assez chouette.
Alors là, vous allez nous dire...
Ça
n'a pas de goût. D'abord, vous sentez avec le nez.
Non, vous pensez à quoi quand vous sentez?
Ça sent quoi?
C'est
vert. Vas-y, trempe-le. Avec l'autre côté du bâton. Sans, sentez, sentez.
Et c'est quoi qui fait ce déclic? C'est justement parce qu'il voit se développer, parce qu'on a perdu toute connexion avec la nature. Donc on ne sait plus d'où vient la date dont on fait le sirop que les enfants ont goûté tout à l'heure. On ne sait plus tout ça. Et donc c'est se réapproprier cette chaîne.
C'est une histoire exactement de reconnecter tout, de mettre des liens, des traits d'union entre tout. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un monde qui est de plus en plus segmenté. Et donc, dans notre quotidien, et même dans les ministères, on segmente, on sépare l'agriculture, l'alimentation, la santé, l'écologie. Or, tout ça est totalement connecté. Donc, en fait, nous, notre job, c'est de remettre des liens entre tout ça. Et quand les enfants le font, comme cet été dans l'atelier dont parle Flore, quand ils remettent le lien entre la carotte elle pousse dans la terre, je la sors, je la vois pleine de terre, je peux la laver, la découper, la goûter, l'assaisonner. Il se l'approprie en fait, il comprend non seulement comment c'est fait et comment c'est arrivé jusqu'à lui, mais aussi combien c'est précieux. Et ça, on a aussi perdu aujourd'hui toute notion de la valeur des choses fondamentales que sont la nourriture. On préfère souvent s'acheter une paire de baskets siglées et que sais-je encore. Mais pourtant, il y a rien de plus incroyablement précieux qu'une eau saine, qu'une bonne carotte qui a poussé dans une bonne terre. Et je pense qu'avec ce travail, vous entendez la cloche de la récré là, je pense qu'avec ce travail, on peut vraiment remettre tous les chaînons, rallier toute la chaîne et les rendre complètement circulaires. Donc être au sein de quelque chose, d'un cercle extrêmement vertueux et sain.
Vous avez une anecdote, je suis sûre. de graines données.
J'en ai plein des anecdotes avec les enfants ou pas, mais je pense.
Vous êtes maman vous-même.
Moi, je suis maman de trois enfants, ouais, de tous âges.
Ça ne change rien en fait.
Non.
C'est juste qu'en termes de mère, on a pu observer parfois, parce que c'est dans votre démarche. Vous avez donné une graine un jour à votre fille, je crois.
C'est ça. C'est l'histoire que j'allais raconter.
Voilà.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est cette histoire-là, l'histoire du haricot est un peu la genèse de pas mal de trucs dans ma tête, en tout cas. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que j'avais des très beaux haricots de semences anciennes que j'ai et j'en ai donné un à ma fille qui
est
aujourd'hui
haricot sec,
haricot sec qui était marbré avec différentes couleurs magnifiques que je crois d'ailleurs j'avais acheté à un marché de producteurs à Berkeley en Californie, la ville de Alice Waters. Et pour clore la jolie histoire, et j'ai donné ce haricot à ma fille qui à l'époque avait 5 ans et je lui ai dit plante-le, ce sera ton haricot, tu vas en prendre soin. Donc elle l'a planté, elle l'a regardé pousser, le plant a merveilleusement bien grandi, est arrivé à peu près à sa taille et a fait 3 cosses. Et à l'intérieur de ces 3 cosses, il y avait 3 ou 4 haricots à chaque fois, les mêmes, mais avec des marbrures différents. Et ils étaient magnifiques. Et quand elle les a vus sur la table, sa réaction de petite fille de 5 ans, c'était la phrase suivante, c'était tellement incroyable que je l'ai noté. C'était « Maman, c'est fantastique la vie ». Et ça m'a percuté de plein fouet. Je me suis dit, il suffit d'un haricot pour que ma fille comprenne le cycle de la vie. Mais bon sang, mais comment ça se fait que ce n'est pas dans toutes les classes, dans tous les livres d'école, à tous les niveaux scolaires? C'est fou que ça reste quelque chose qui soit considéré trop souvent comme anecdotique,
superflu,
accessoire, accessoire. Or, c'est fondamental. Et en fait, on l'observe aujourd'hui dans nos ateliers, c'est-à-dire que les enfants font des reconnexions très rapides. On avait fait l'année dernière un atelier superbe autour des graines aussi, où c'était un maraîcher, Norbert, qui est venu dans la classe et qui a montré en fait les légumes et leurs graines. Donc un poireau qui avait été monté en graines avec la fleur de graines, des blettes avec les graines qui allaient avec. Moi, j'avais jamais vu des graines de blettes non plus. Et puis, il avait aussi amené des choux de Bruxelles sur la branche. On dirait un arbre magique, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Et les enfants ont tellement été finalement émerveillés par tout ça qu'à la fin, je ne mens pas, tout le monde était témoin, ils mangeaient des choux de Bruxelles, des feuilles de choux de Bruxelles crues, ils goûtaient les feuilles de blettes crues, et je pense que les parents auraient vu ça et n'en seraient pas revenus. Et c'était juste la magie de voir tout ça et de reconnecter tout, je crois. Vraiment.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Alors, attention, cogne pas Mathilde. Allez, maintenant, il faut bien mélanger. Ça va? Ça sent bon ou pas? Jamilatou, ça sent bon?
Ça sent rien.
Ça sent rien? T'es sûre? T'as le nez débouché?
Les haricots sont pas salés, alors ça c'est une musique un peu traditionnelle. Cajun, vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde et l'apprentissage à ses goûts dès le plus jeune âge pour que les enfants puissent grandir et se développer en conscience, devenir des citoyens avertis et éclairés. L'école comestible les met sur le chemin. Sa fondatrice Camille Labreau est avec nous, ainsi que Flore Grandboulan qui est, elle, cuisinière, chef à domicile également. Avec qui on a fait donc cet atelier, vous avez entendu un petit peu les enfants et cette histoire de vinaigrette depuis le début de cette émission. On a parlé de changer le monde. Je voudrais qu'on parle un petit peu de changer le monde en s'inquiétant de l'environnement. On parlait des liens entre les différentes sphères, à savoir la nature, évidemment, la cuisine. Mais en quoi est-ce qu'il est très important justement de faire attention à l'environnement et donc aux produits? Et comment est-ce qu'on transmet ça aux enfants?
Il y a plein de choses, mais on va commencer par le végétal. Je vous raconte une petite anecdote concernant ces enfants qu'on a entendus. Au tout début de l'atelier, on a fait un petit test avec eux. Et on leur a demandé d'abord d'identifier des légumes. On leur avait mis devant eux de magnifiques légumes en provenance d'une petite épicerie paysanne qui s'appelle le Zingam, qui est notre partenaire. Il y avait des betteraves avec leur fan, il y avait du fenouil, il y avait des herbes, persil, basilic, romarin, il y avait des prunes, des quetsches, c'était l'époque des quetsches. Autant vous dire que rien, absolument rien n'a été reconnu, à l'exception de la patate, par seulement 3 enfants sur les 18. Donc ça en dit long sur la déconnexion justement de ces enfants. Puis ensuite, on a fait un autre jeu qui était de leur lancer des mots clés et de voir qu'est-ce que ça leur évoquait. Et j'ai demandé qu'est-ce que ça leur évoquait la ferme. Les mots que j'ai eus, qu'on a eus, c'était cochon, vache, poule, canard, chien, tracteur.
Carnet, mécanique.
Mécanique. Et puis ensuite, bon, on est en plein Paris, alors peut-être ça joue, ce sont des petits urbains. On a lancé le jardin. Et là, on a eu le manège, le toboggan, les petites voitures et les oiseaux. Voilà. À aucun moment, un enfant n'a pensé, ça n'est venu à leur esprit, de penser aux végétales, aux légumes.
Aux fleurs,
mais surtout aux légumes qui se mangent et enfin les fleurs encore si on pousse un peu, si on parle de jardin de sa maison, on va parler de fleurs. Mais les légumes, ces enfants sont déconnectés de ça complètement. Donc nous on reconnecte et donc on travaille énormément sur le légume. Là en l'occurrence ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est sur les goûts primaires. Donc c'est on finit l'atelier par une vinaigrette qui est l'idée de la création de Flore, mais c'est aussi pour aller avec du légume. Et voilà, ça va être l'assaisonnement du légume. À un moment donné, ces enfants, ils ont déjà fait des ateliers autour des légumes. Ils ont fait un atelier qui s'appelle la cagette de saison où là on leur amène une cagette et on identifie, on goûte, on regoute, on goûte avec différents, justement, un peu de sel, un peu de sucre, un peu de citron pour voir comment ça change. Et ils se les approprient peu à peu. Et ce qui est marrant là, c'est que ils étaient tout excités en pensant qu'ils allaient encore goûter des légumes aujourd'hui. Donc, c'est dire.
Ils se jettent sur les carottes.
Ils se jettent sur les carottes. Et les radis. Et les feuilles de mâche.
Oui, c'est ça. La feuille de salade, c'était délicieux et tout se reconnecte au gré des ateliers.
Ouais. Il y a le végétal qui est fondamental. C'est-à-dire, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus intéressant et important de faire une approche sur le végétal que le chocolat, qu'ils ont tous parfaitement. Ça, ils maîtrisent, le chocolat. Il n'y a pas de problème.
Bien intégré. Le chocolat bien amer, c'était pour leur parler de la mer. C'était pas du chocolat au lait non plus.
Et puis, évidemment, on charrie des valeurs très écologiques. On essaye de leur apprendre la différence entre un produit de saison et pas de saison, un produit en circuit court et qui a fait le tour de la terre, un produit qui a poussé sans produit chimique ou avec... Enfin, on évite de leur faire manger des pesticides, donc on leur fait pas goûter les produits. Mais finalement, c'est quelque chose qui sous-tend absolument tout. Et puis, comme disait Flore tout à l'heure aussi, l'anti-gaspi. C'est-à-dire que c'est des thèmes transversaux de tous nos ateliers, de toutes nos activités. C'est qu'on essaye de ne rien jeter, de pas avoir de plastique ou un minima sur les tables. On travaille avec des planches en bois et des vrais couteaux et on les encadre bien pour qu'ils apprennent ça aussi. Enfin, on les rend responsables aussi. Il y a tout ça qui fait partie en fait d'une approche, je l'espère, attentive à l'environnement pour qu'ils apprennent ces valeurs sans même s'en rendre compte.
Oui, sans même s'en rendre compte. C'est très important, ça, cette démarche, on ne gaspille pas. Comment est-ce qu'on fait dès le début pour pas gaspiller?
Je pense qu'il faut déjà leur montrer qu'on peut consommer toutes les parties. Parce qu'on parle de légumes. Les légumes, par exemple, on peut tout à fait manger les fans, on peut manger la peau. Et puis, les peaux qu'on peut pas manger, on peut en faire des bouillons. On peut faire des pestos, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec. D'ailleurs, on avait fait un atelier l'année dernière de pesto avec des fans. C'était pas que avec des fans, mais il y avait des herbes aussi. Mais oui, leur montrer déjà qu'on peut tout utiliser et qu'ensuite on peut revaloriser les déchets qu'on peut pas utiliser avec un compost, par exemple, ou au moins en les jetant dans une poubelle qui fait qu'ils vont pouvoir être recyclés.
C'est du bon sens, en fait.
Oui, mais bon.
Mais ça nécessite de savoir cuisiner, parce que c'est ça la difficulté aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas cuisiner, ou en tout cas se disent que c'est très long et très difficile.
Alors, c'est sûr que c'est un triangle. Hein. Soit il faut dépenser de l'argent, soit il faut dépenser du temps, soit on s'appelle sur la qualité. Donc c'est le fameux triangle. Temps, coût, qualité. Il y en a toujours un qui va être privilégié ou en défaut. Et donc, si on choisit de payer moins cher et de passer moins de temps, la qualité va en prendre un coup. Et par contre, si on essaye de rester pas trop cher en ayant la qualité, il faut y passer du temps. C'est incontournable. C'est incompressible.
C'est ça le secret, en fait, j'ai envie de dire. Parce que là, nous sommes à Paris, dans une école qui est publique.
Publique, absolument.
Donc, on travaille avec les publics. Donc, peu importe les niveaux sociaux. La question de la cuisine, elle est primordiale. Parce que du coup, ça vous permet quelque part de faire des économies.
Ah, moi j'en suis convaincue.
Parce que je peux penser que justement miser sur des légumes, ça va coûter plus cher, de bonne qualité et locaux. Et en réalité, Flore.
En effet, si on n'en jette pas la moitié, bah forcément, je pense qu'on peut complètement faire des économies. Et on leur avait montré par exemple les tiges des herbes. Il y en a beaucoup qui les jettent en fait et qui utilisent que les feuilles, alors que c'est hyper goûtu et qu'on peut en faire plein de choses, des tiges des herbes. Donc il y a plein d'exemples comme ça de choses qui vont être jetées alors qu'elles auraient pu être réutilisées. Et en effet, ça fait que des produits, quoi, si on en jette moins.
Y compris pour la viande, enfin, les produits carnés, c'est respecter l'animal que d'utiliser toute la viande également, Camille?
Oui, non, mais c'est absolument, ça aussi. Mais c'est vrai qu'on approche moins la viande dans nos ateliers. Pour la simple et bonne raison que, d'abord, sanitairement, c'est très compliqué de travailler la viande ou le poisson dans des ateliers à l'école. Et que, par ailleurs, c'est honnêtement quelque chose qu'ils maîtrisent mieux, déjà, que les légumes. Et donc, pour des raisons qui sont à la fois des raisons de simplicité d'approche, mais aussi parce que, finalement, l'avenir de l'alimentation, c'est quand même les légumes et les légumineuses. Mmh. On met le paquet là-dessus. Chez nous, par exemple, on n'est pas du tout végétarien, mais on doit manger une viande une fois par semaine. Et le reste, on s'amuse comme des fous avec des légumineuses, comme Flore fait. Flore,
oui, moi c'est pareil.
C'est quasiment végétarien.
C'est quasiment végétarien, mais j'ai pas envie de me faire le porte-parole du végétarianisme, parce que je trouve que justement, en effet, consommer de la viande ou du poisson qui ont été bien élevés ou bien pêchés, c'est pas un problème. Et puis que ce que je trouve intéressant, c'est par contre de montrer qu'on peut cuisiner que avec des légumes, des légumineuses et faire des trucs très nutritifs. C'est ce qui est souvent la peur des gens, en fait, que tu dises je vais avoir faim. Et très bon. Et je pense que c'est ce que vous disiez par rapport au temps, c'est que la cuisine végétale, elle demande beaucoup plus de temps que juste prendre un morceau de viande, le cuire et mettre un accompagnement à côté.
Et c'est du coup les enfants, justement, est-ce qu'ils interrogent la manière dont on va transformer ces légumes?
Non, ils sont très réceptifs à tout. C'est des éponges, les enfants. Donc, si on leur montre des bonnes pratiques, ils vont intégrer ces bonnes pratiques. L'année dernière, on a fait j'avais une classe, Flore y est intervenue aussi, de grande section, qu'on a suivi sur toute l'année.
Grande section, c'est juste avant
le CP.
Donc 5-6 ans,
c'est ça. Et en fait, on a vraiment décidé d'en faire une classe pilote. Ils ont suivi un atelier toutes les semaines pendant toute l'année jusqu'au moment du confinement. Et ces enfants-là, je les ai retrouvés récemment à l'occasion d'un atelier un peu exceptionnel qu'on a fait pour le plaisir avec leur ancienne maîtresse de grande section. C'était fou. C'est-à-dire que quand je vous racontais tout à l'heure comment le peu de légumes que ces enfants aujourd'hui connaissent, les enfants de l'année dernière, donc un an plus tard, après peut-être, ils ont fait environ, je dirais, une vingtaine d'ateliers, on avait amené une cagette où il y avait des tomates de variétés anciennes. Autant vous dire, ils ont reconnu la tomate verte de Crimée.
En donnant
les noms. La courge butternut, le fenouil, évidemment. Tout était reconnu. Et donc, on s'est dit, ça marche, c'est génial. C'est la preuve, là, vivante, avec ces petits qui sont maintenant en CP, qu'on n'a pas travaillé pour rien. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir le continuer, c'est-à-dire ne pas le faire sur un an, mais parfois sur deux, trois, cinq ans, sur toute la scolarité de l'enfant.
Bah oui. Même plus, je suis allée voir un directeur d'école à Boulogne-Billancourt. Alors, Boulogne, c'est à l'ouest de Paris, donc à l'opposé de là où nous sommes aujourd'hui, qui est une école pilote en termes de numérique. Alors là, on est vraiment dans le digital, dans tout ce qui est de plus technique et avancé. Et il s'est lancé lui aussi. Il a fait le pari de l'école comestible avec vous, Camille. Enfin, avec votre association. Il s'appelle Khalid Amali. Et donc, il explique un petit peu comment ce numérique va mettre un peu les pieds dans la terre.
Ah, vous avez même un canapé.
Oui, j'ai un petit canapé.
C'est pas mal pour vous interviewer.
Oui, très bien.
Canapé, non ?
Ouais, je vais le déplacer. Hop.
Ils sont pas timides. Hein.
Non, il n'y a pas de filtre.
ce qui est plutôt pas mal. Ce qui m'a séduit et ce qui a séduit l'équipe, c'est tout le travail qu'on peut mener autour de l'éducation à la santé et le développement durable. En étant accompagné avec cette association, l'école comestible, qui va venir de manière épisodique sur différents ateliers, on a signé sur, pas simplement sur un an, mais sur 8 ans. L'idée, c'est d'accompagner les élèves de la petite section jusqu'au CM2, avec différents ateliers en lien avec les différents items, l'éducation à la santé, le développement durable. Donc on a un jardin pédagogique dont on va s'emparer. Les ateliers qui seront proposés sur chaque année seront différents et il y aura du lien. Et surtout, on voulait s'accorder du temps pour travailler sur le sujet.
Du coup, à l'issue de ces 8 années, vous verrez comment les enfants étaient sensibilisés à cette question qui part à la base du goût des choses.
Exactement. L'idée, c'est vraiment de partir de leur représentation, de ce qu'ils ont l'habitude de manger à la maison ou à la cantine. C'est de questionner ces représentations et de les aider à mieux manger pour être, bien évidemment, en meilleure santé.
Est-ce que c'est aussi pour vous un gage d'ouverture aux autres ?
Je pense que le lien se fait naturellement. Effectivement, quand on a un peu de curiosité, d'appétence pour des choses qu'on ne connaît pas, ça nous donne quelques armes pour découvrir l'autre, dans l'absolu. Pour nous, ce qui est important, c'est de construire des citoyens éclairés. Et un citoyen éclairé, ça passe également par des citoyens gourmands et curieux. Et la nourriture a une place prépondérante dans notre quotidien. Et c'est également une entrée pour travailler avec les parents. Et ce qui rassemble souvent les gens, c'est tout ce qui peut se construire autour de la table.
Khalid Amali. Et les parents, partie prenante, évidemment.
Absolument, c'est très important. On n'en a pas parlé encore, mais évidemment que quand on éduque les enfants, on espère éduquer aussi un petit peu leurs parents, de manière indirecte, notamment en comptant sur les enfants pour leur raconter un peu ce qu'ils font. En ramenant, ils vont ramener des trucs à la maison, comme aujourd'hui, ils ramènent une petite vinaigrette de leur cru à la maison pour proposer à leurs parents de le mettre sur la salade ce soir. Et puis aussi, en conviant les parents à participer à l'association et aux activités. C'est-à-dire que d'une part, si il se trouve qu'au sein de l'école, il y a des parents qui sont professionnels de la restauration, chefs, artisans, boulangers, jardiniers.
Comme ça a été le cas d'ailleurs depuis que l'association existe. Vous avez des chefs cuisiniers qui ont participé à des ateliers,
absolument,
je crois.
Absolument, absolument. On les convie à participer et puis aussi à participer à un événement final sur l'année qui va clore un petit peu le programme annuel qu'on a appelé évidemment la fête comestible et qui est un petit peu le point d'orgue de tous les enseignements qu'on a pu partager et diffuser en conviant les participants, les intervenants comme Flore et d'autres intervenants durant les programmes, mais aussi évidemment les enseignants, les enfants et les parents, et en leur proposant par exemple de faire un plat, soit quelque chose qu'ils ont appris à faire avec nous, soit quelque chose qui vient de leur pays, parce que comme disait Monsieur Amali dans votre interview, et c'est aussi un vecteur de culture. On est dans des écoles publiques qui sont très mixtes, avec des dizaines de nationalités représentées, et on peut avoir un échange culturel extrêmement riche autour évidemment de la cuisine.
Est-ce que chacun rapporte ses épices, chacun raconte justement ce qu'il mange chez lui et donc un petit peu de son histoire. J'étais d'ailleurs allée dans un collège, Elsa Triolet, c'est dans la banlieue de Lyon, à Vénissieux, et il y avait eu un concours de cuisine, mais d'abord il m'avait emmené dans le potager évidemment. Alors, est-ce que Bonjour. Vous pourriez me montrer votre potager ?
Oui, bien sûr.
Ah, oui.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce potager, en gros ? Quel type de variété ?
Légumes.
Des fleurs aussi.
Des framboises aussi.
Dans notre salle de permanence, on a fait un mur végétal. On va mettre dedans des fraises, des framboisiers, plein de choses.
Des groseilles ?
Ouais. Des fleurs aussi. On verra.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous venez dans ce potager ? Que vous voyez que ça pousse ?
Des émotions.
Non, c'est vrai. On va parler sérieusement maintenant. Moi, je ressens des émotions quand je vois ce merveilleux potager. Au début, il n'était pas vraiment vert. Et on a déterré, défriché, déterré, déserté. On a élaboré et tout. C'était vraiment dur à un moment, mais après, on commence à s'y faire. Là, quand je vois tout ce vert, je suis étonnée. Je suis étonnée du changement qu'il y a eu. Là, je suis vraiment heureux de voir ce merveilleux potager dans notre collège.
Est-ce que c'est satisfaisant quand on travaille les mains dans la terre, qu'on voit que ça pousse ?
C'est magique déjà, parce que en une semaine ça pousse déjà. Moi et ma copine on a décidé de faire potager parce que en fait avant on avait des problèmes. Et après elle nous a proposé la prof de faire potager, comme ça on sort du monde des problèmes. Genre.
Ça calme un peu, non ?
Ça calme trop.
Ça fatigue aussi.
Pas trop.
On est jeunes, du coup pour nous la fatigue c'est vrai.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Des oignons.
On les reconnaît vraiment avec leurs tiges.
D'accord.
Ouais, je sais, je crois. C'est le rôle de la nourriture ou...
Voilà. Vous avez fait un compost ?
Je crois pas. D'accord. Madame Laval, est-ce qu'on a fait un compost ?
Voilà, une classe donc des collégiens de 5e et 4e, très investis. Et cette notion de calme et de reconnexion aussi avec la nature qui est importante, est-ce que ça, les enfants qui sont ici le ressentent aussi déjà?
Mais complètement. Aujourd'hui, je sais pas. Ils étaient un peu agités. C'est peut-être la proximité des vacances ou je ne sais pas. Mais on a observé, en fait, sur la durée. Et c'est pour ça que ça nous est très important de faire des programmes d'ateliers, non pas juste des ateliers ponctuels, à quel point les enfants se concentraient et se calmaient. Parce qu'en fait, ils ont juste envie, ça les passionne. Hein. C'est jamais pénible, c'est jamais scolaire, c'est toujours excitant, nouveau. Même si on leur fait goûter des trucs qu'ils aiment pas, c'est excitant. Ouais. Donc il y a une concentration et un focus qui se crée et qui vraiment les calme effectivement.
Apprendre aussi en jouant ou en ayant l'impression de jouer. Vous avez du coup le soutien aussi des enseignants, j'imagine, qui utilisent cette matière d'atelier gustatif dans leur classe.
Bien sûr. En fait, on les incite. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout qu'on arrive comme des prestataires qui vont faire un petit truc et puis on range nos couteaux et on s'en va. C'est au contraire, on essaye de construire un projet ensemble, un projet pédagogique. On a entendu Monsieur Amali, avec lui et toute son équipe pédagogique, on a vraiment discuté très longuement de comment on voulait faire les choses, de comment on allait chacun aller s'emparer du truc, et on incite les enseignants à construire autour de ce qu'on leur propose. Nous, on leur donne un peu des outils, des billes, et ensuite ils peuvent faire plein de choses. Par exemple, ils peuvent évidemment emmener les enfants voir des trucs dehors, des marchés ou autres. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Mais ils peuvent aussi créer des herbiers comestibles, créer des livres de recettes ou des prolongements à chaque fois de ce qu'on leur propose. L'année dernière, on avait fait un atelier autour des légumes et la maîtresse avait ensuite fait dessiner les enfants les légumes qu'on avait laissés en classe, évidemment. On range pas tout, on leur laisse tout. Ça a fait des dessins absolument extraordinaires. J'aurais aimé les avoir et les encadrer. Et puis le troisième jour, elle a fait des soupes avec les légumes et avec les enfants. Donc c'est extrêmement vertueux et génial parce qu'il y a une continuité pédagogique et une richesse aussi des enseignements qui est formidable.
Déjà regardez, elles ont toutes des couleurs différentes.
Attendez, enlevez vos mains deux secondes.
La main qui est meilleure, la nôtre plus épaisse et plus liquide.
La nôtre, elle est meilleure.
Alvaro, tu veux un petit bout de pain?
Moi, je veux un bout de pain.
Moi aussi.
Moi, je veux pas goûter la salade à la ciboulette. Elles sont toutes vachement différentes, c'est bien.
Ok, je peux avoir du pain.
Elles vous plaisent, les vinaigrettes?
Nolan, t'en as déjà eu?
Est-ce que c'est possible partout dans le monde, j'entends? Est-ce que ça, ce principe d'atelier, en tout cas d'enseignement et d'éducation au goût, il est universel?
Je crois que oui.
Il devrait l'être, en tout cas.
Il devrait l'être, et je crois qu'il est possible. Il est facile à mettre en place. Ce qui est le plus compliqué parfois, c'est juste les volontés politiques. C'est l'envie des uns et des autres, et le fait de comprendre qu'on peut, même au sein d'une école, même sur le temps scolaire, faire des choses qui sont un peu moins scolaires, qui sont un peu moins dans les livres de manière théorique, qui sont juste où on s'amuse un peu, où on est un peu excité, où c'est beau, où c'est bon, où ça fait plaisir, où on se fait plaisir, et ça peut être extrêmement riche en apprentissage aussi.
Et du coup, l'école comestible, l'association, qu'est-ce que vous faites pour aider? Par exemple, moi, je suis, imaginons, dans une commune et je me dis, ah tiens, j'aimerais bien que ça participe dans l'école où mes enfants. Comment je fais concrètement?
Alors, comme on est assez jeune, c'est une bonne question parce qu'il faut arriver à la pratique.
Mais vous n'êtes pas fatigué si on en
fait. On n'est pas fatigué, si on est épuisé, mais en effet, non, on bosse, on travaille beaucoup. On est un collectif assez nombreux et en fait, on est en train de développer tous les contenus pédagogiques sur chaque thématique, comme celle qu'on a fait aujourd'hui, les goûts primaires et la vinaigrette. On va avoir vraiment une... J'aime pas ce mot, mais ça va être un peu un kit quand même, qui permettra à des gens en région, des enseignants ou des parents d'élèves même, de s'emparer du sujet.
Et à l'étranger, et à l'étranger du
voilà,
sujet.
Et de le mettre en place dans leur école, avec les enfants de leur entourage. Et l'idée, c'est quand même de charrier certaines valeurs, ce qu'on a dit tout à l'heure, qui sont des valeurs écologiques, des valeurs humaines, des valeurs de solidarité. Donc on a une charte de valeurs et on demande à tous les gens qui vont mettre en place les programmes de manière indépendante ou accompagnés par nous de signer cette charte de valeurs pour juste, voilà, il n'y a pas de coût. Mais c'est juste pour garantir finalement que c'est la bonne éducation alimentaire qui est transmise et non pas les valeurs de la malbouffe qui nous entourent.
Qu'on sache un petit peu comment s'orienter, vers quoi aller, comment commencer déjà, parce que parfois les premiers pas sont les plus importants et on a du mal à les faire. Je voudrais que vous écoutiez Haroun Asso. Haroun Asso, il est réfugié mauritanien, il vit en France, il est cuisinier. Et je lui ai posé la question, alors Haruna, et l'éducation en goût, vous en pensez quoi?
Pour moi, ce qui est important, vous savez, l'éducation au goût, si dès l'âge de 3 ou 5 ans, si on ne les apprend pas comment bien manger, qu'est-ce qu'il y a derrière le produit, je pense qu'on est très mal parti pour respecter ce que la nature nous donne. Les enfants, on devrait les apprendre dès le plus jeune âge, le goût et les produits qu'on sait qui vont être là jusqu'à 2030, 2035, parce qu'on sait que on ne pourra pas continuer de consommer de la viande comme ça. On sait qu'il y a des produits qui viennent comme l'avocat, on ne pourra pas le continuer comme ça. C'est sain pour nous, est-ce que c'est sain pour la planète? Ça, c'est autre chose. Je pense qu'il faut partir dans les aliments qui sont sains pour nous et aussi pour la planète. Il faut d'abord penser à la planète.
Vous avez une petite fille, vous avez dit, elle a 3 ans. Comment on lui apprend à goûter?
D'abord, un produit cru. Et aussi, je la fais manger des produits qui sont cuits dans de différentes formes. Je veux vraiment qu'elle mange ce qu'elle pourra manger d'ici 30 ans et de manger engagé.
Attiser la curiosité, c'est ça la clé aussi. L'idée, in fine, c'est que la culture alimentaire, que l'alimentation et le goût soient au programme dans les écoles, que soient enseignées de manière officielle. C'est possible.
Oui, on l'espère, mais on l'espère sans que ça soit trop formalisé, que ça devienne pénible et que ça reste beau et bon et fun, parce que sinon tout notre travail partira à la poubelle. Mais Haruna, qu'on connaît aussi, il a failli faire il devait faire un atelier avec nous, mais c'était au mois de mai. Il a tout dit et il fait un plat que j'ai goûté récemment, qui est un mafé à base d'aubergines. C'est un des meilleurs plats que j'ai mangé récemment et j'aimerais qu'ils viennent l'enseigner aux enfants parce que ça, c'est un plat d'avenir.
On notera. Bon, alors c'est une tradition dans le goût du monde parce qu'on termine là, c'est la fin. Un ingrédient et un ustensile. Flore, vous aviez été mise au courant. On va vous demander. Non, on a oublié, c'est pas grave. Un ingrédient et un ustensile qui soit pour vous assez symptomatique justement de cette éducation au goût et d'une école comestible. De quoi a-t-on forcément besoin quand on veut enseigner le goût?
J'ai envie de dire du citron ou du sel, des choses un peu de base. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, hein. Ça relève, ça assaisonne et puis c'est essentiel. Et un ustensile, un fouet, ce qu'on a pris pour lui donner la vinaigrette.
Camille.
Moi, ce serait le radis. Parce qu'il a beaucoup de choses chouettes, le radis. D'abord, il pousse vite, donc on peut le montrer aux enfants assez rapidement. Il pousse à peu près à toutes les saisons. Il est un peu piquant, mais quand même, il est sympa, il est joli, et les enfants l'aiment beaucoup. Et on peut le manger en entier et faire des pestos de fans, comme a dit Flore tout à l'heure. Et je crois que j'ai envie de dire les doigts. J'ai le doigt?
Totalement. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci Clémence.
On dit oui donc à l'école comestique parce que l'on croit qu'on peut changer le monde avec ce que l'on mange. Tout à fait, toutes les coordonnées pour retrouver l'association, y adhérer si vous le souhaitez, ne serait-ce que lire ou vous renseigner seront sur la page de l'émission sur RFI. Flore, les coordonnées pour vous contacter également, tout sera sur la page du Goût du Monde. Vous pouvez aussi écouter nos émissions sur l'éducation au goût, les graines de chef et les cantines inspirantes parce qu'il y en a. Merci beaucoup à Nicolas Benita pour la prise de son, à Cécile Bonici pour la mise en onde de ce Goût du Monde que vous pourrez aimer, commenter, réécouter en podcastant l'émission. Je vous souhaite à tous une savoureuse semaine. À samedi prochain.
Donc, une vinaigrette, c'est très simple.
Il y a de l'huile,
mais on en a plusieurs. Ensuite, il faut qu'on mette un vinaigre.
C'est parti, ça touille. Doucement. Attends, vas-y, touille. Il faut que l'huile, elle soit toute mélangée. Elle est comment la vinaigrette?
Elle est trop bonne.
Elle est trop bonne.